si gira. Silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check.
Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque. Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juin 2023, c'est la traductrice, écrivaine et critique de cinéma Hélène Frappa qui se prêtait à cet exercice en programmant La Fugue d'Arthur Penn. Rencontre avec Hélène Frappa, animée par Bernard Pennolien.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bah écoutez, ravi que vous soyez si nombreux et si nombreuses. Vous avez raison parce que c'est un film, c'est un beau film et c'est un film assez rare, qu'on voit assez peu. La preuve, c'est que pour le voir, cette copie d'un film produit par la Warner vient d'Angleterre. Et donc la copie là, que vous allez voir, la projection, sera sous-titrée électroniquement puisque c'est une copie sans sous-titres français. Qui voit d'ailleurs le film pour la première fois? Oui, tout le monde, quoi. D'accord. C'est parfait. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir et de vous accueillir non seulement dans le cadre de cette séance qui se déroule à l'occasion de la rétrospective des films de la Warner des années 70 et en même temps qui rencontre, qui croise la carte blanche concoctée par Hélène Frappa. Hélène, je lui ai proposé de choisir 4 films tout en lui disant qu'on passait cela et elle a dit « Ah, La Fugue, je prends ». Et si elle prend La Fugue, si j'ose dire, c'est parce qu'on avait aussi envie d'inviter Hélène Frappa à l'occasion de la parution d'un livre assez récent, il y a quelques mois, qui est sorti chez Actes Sud et qui s'appelle « Trois femmes disparaissent » et qui est une enquête qu'on pourrait qualifier de cinéphilique ou de cinéphilico-romanesque, qui est une enquête sur trois femmes qui existent, qui ont existé dans le cinéma et qui continuent d'exister, et qui sont une généalogie, une grand-mère, une mère et une fille, ou une petite fille, je ne sais plus comment il faut dire, Tippi Hedren, Melanie Griffith, Dakota Johnson, qui sont donc l'une descendante de l'autre. Et à partir de ces trois destins, Hélène a tissé, j'allais dire, sa toile. Elle a mené son enquête, elle a fouillé dans le passé, le présent et les films de ces trois femmes. Et évidemment, ce livre nous a, nous, beaucoup excités, intrigués, questionnés. Et on s'est dit, c'est à une romancière, Hélène Frappa, traductrice par ailleurs, mais aussi cinéphile et qui a beaucoup écrit sur le cinéma, c'est à elle qu'on va confier cette carte blanche, ce Parlons Cinéma. Donc la semaine dernière, avec Frédéric Bonneau, vous avez eu l'occasion, et avec Hélène, de voir et de discuter d'un des films les plus fous de l'histoire du cinéma qui s'appelle Roar. Je ne sais pas comment il faut prononcer, hein. Je ne parle pas le lion. Le fait mieux que moi, le Big Cat. Ce soir donc, La Fugue. Le prochain film qu'a choisi Hélène, c'est jeudi prochain, c'est Riche et Célèbre, le dernier film de la filmographie de Georges Cukor. Et puis, la semaine d'après, on verra Spanglish, un film là aussi méconnu, avec Adam Sandler, qui est une comédie. Voilà. Un film de James L. Brooks. Voilà, 4 choix originaux, 4 occasions de parler de cinéma, puisque vous le savez, le principe, c'est qu'on fait d'abord une courte introduction. Hélène va vous dire quelques mots du film, mais c'est surtout après, quand on aura vu le film ensemble, qu'on en discute tous les deux, puis qu'on en discute avec vous, et qu'on se demande si on a vu la même chose. Et dans le cas de ce film-là, on peut effectivement se demander à la fin si on a vu la même chose. Dernière petite information avant de te donner la parole, c'est donc un film qui sort en 1975, un film d'Arthur Penn. Hein, donc Arthur Penn, à ce moment-là, c'est à la fois une grande figure du cinéma américain, Bonnie and Clyde, évidemment, Alice's Restaurant ou Little Big Man. Celui-là, il le tourne à la fin de l'année 73. Il sort en juin 75 aux États-Unis, en septembre de la même année en France. Et c'est un film scénarisé par Alan Sharp, qui n'est pas le premier venu, puisque c'est le scénariste de Führer Apache de Robert Aldrich ou de l'homme de la dernière frontière de Peter Fonda. L'homme sans frontières. Voilà. Quelques mots donc très rapidement, mais on reviendra peut-être sur le parcours d'Arthur Penn. Mais évidemment, ce qui a intéressé Hélène dans le fait de projeter ce film, c'est que c'est pour ainsi dire le premier film de Melanie Griffith, fille de Tippi Hedren.
Merci Bernard et merci encore d'être là. Donc c'est le deuxième chapitre de ce récit en quatre chapitres que j'ai concocté avec toi. Alors effectivement, tout est dans ton pour ainsi dire, c'est-à-dire que c'est assez rare, je pense, dans l'histoire du cinéma et aussi dans l'histoire humaine, d'avoir deux commencements. Hein, c'est un peu smoking, no smoking d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une bifurcation pour Melanie Griffith. Son premier film officiellement, sa première apparition à l'écran, c'est celle que vous allez voir ce soir, donc dans le film d'Arthur Père, ça commence bien avec des lapsus, Arthur Penn, donc La Fugue, Night Moves, un magnifique titre original. Mais en réalité, son premier vrai rôle, sa première vraie apparition à l'écran, c'est celle que vous avez peut-être vue la semaine dernière, donc dans le film de Noël Marshall, Roar, qui sort en 81, donc officiellement, mais qui a mis 11 ans pour être tourné. Enfin, c'est un tournage, ça fait partie de la folie du film que le tournage lui-même a été, la préparation était extrêmement longue, ce qui fait qu'elle a deux débuts. Donc simplement, son premier début, son premier commencement, c'est une toute petite jeune fille, presque une petite fille et une adolescente qui va être mutilée à de nombreuses reprises par les fauves, les big cats avec lesquels sa mère et son beau-père la font cohabiter au quotidien dans la vie et puis sur ce tournage de Roar. Donc c'est, on pourrait dire, la greffe de Melanie Griffith qui va subir des dizaines d'opérations de chirurgie esthétique pour réparer son visage et son corps atrocement mutilé par les fauves. Donc ça, c'est le premier vrai début chronologiquement, même si la date de sortie c'est 81. Et puis il y a cet autre film, donc celui de ce soir, qui n'est pas du tout sans rapport, qui est un premier début bis en quelque sorte, où vous allez voir qu'elle apparaît aussi par la peau. Alors pas la peau mutilée, on la voit pas mutilée, mais la peau nue. Hein, c'est l'autre récit à la fois de l'existence et de la carrière d'actrice, et on pourrait dire de la tragédie humaine et d'actrice de Melanie Griffith dans cette histoire qui est une histoire de transmission entre donc la grand-mère Tippi Hedren, la fille, et puis ensuite elle va se poursuivre avec Dakota Johnson, donc la fille de Melanie Griffith, et c'est l'histoire de sa peau. Hein, donc c'est l'histoire d'une femme et d'une actrice réduite à sa peau. Elle commence aussi avec ce très très beau film, hein, qui est effectivement une rareté, d'Arthur Penn.
Voilà, bonne projection, et on se retrouve après avec vous, ceux qui le veulent, et Hélène Frappa. Merci. Bien, voilà, donc La Fugue, Night Moves, on pourra peut-être revenir sur le titre et la polysémie du sens du titre, un film donc de 1975, merci, Arthur Penn. Peut-être pour commencer, Hélène, et commencer par ce qui fait aussi ce pourquoi tu as choisi le film, c'est-à-dire le personnage de Melanie Griffith. J'aime beaucoup le moment où Gene Hackman, donc le détective privé, va voir la jeune femme, la jeune fille, et lui dit, grosso modo, il lui dit à 16 ans, la vie n'a pas de sens, ou la vie, c'est pas clair, mais rassurez-vous, à 40 ans, c'est pareil. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin, ça, les dialogues sont vraiment très, très bien dans le film. Et quand il lui dit ça, effectivement, Melanie Griffith, à ce moment-là, elle a à peu près l'âge du rôle. Elle a 15, 16 ans. Et dans ton livre, roman enquête, l'idée c'est que, et peut-être, et après on parlera de l'autre film, mais disons que dans la vie, Melanie Griffith elle-même, tu as commencé à le dire dans l'introduction, est un peu en fugue, elle-même est un peu en fuite. Tu dis toi-même, en citant Elena Ferrante dans ton livre, parfois une femme, pour ne pas mourir, doit fuir. Et les personnages féminins ici sont peut-être la clé du film, c'est-à-dire ce autour de quoi tourne Jane Ackman pendant toute son enquête, resterait à déterminer l'enquête, mais peut-être redire un mot de l'événement Melanie Griffith dans le film, puisque c'est le premier film dans lequel elle apparaît publiquement. C'est un peu son « Et Dieu créa la femme à elle ». C'est le moment où, à 16 ans, elle apparaît dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute son ingénuité. Et en même temps, on voit bien qu'à son âge déjà, il n'y a plus d'innocence. De ce point de vue-là, la question de l'innocence, on y reviendra aussi, parce que je pense que pour Arthur Penn, c'est la question centrale. Pourquoi ou qu'est devenue l'innocence de ce pays. Un mot donc sur ce trajet ou ce parcours de Melanie Griffith, et peut-être d'un trait, jusqu'où tu l'amènes, toi, dans ton livre.
Alors, peut-être je peux commencer par la fin de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'innocence du pays, parce que effectivement c'est magnifique la manière dont Arthur Penn déplace cette question, qui est la question, bon, on pourrait dire des Kennedy, c'est une des manières de la formuler, la question de tous les films de l'époque paranoïaques, enfin, qui ne sont pas du tout paranoïaques en réalité, mais pas du tout, donc j'enlève le mot paranoïaque, mais la question des enquêtes, disons, à la conversation secrète ou Blowout de Coppola et de Palma. Donc là, toute cette question-là, et c'est magnifique effectivement ce moment du dialogue autour de Kennedy, où il dit... Parce qu'en fait, c'est la question de la mémoire commune, voilà. C'est-à-dire que à ce moment-là, cette scène d'amour peut avoir lieu quand ils ont, et c'est un film qui est hanté par la question de la mémoire, du souvenir d'enfance manquant, c'est le sujet du film. Finalement, cette enquête, ce private eye, comme on dit en anglais, cet œil privé, c'est-à-dire celui qui fait comme font les écrivains. Et moi, c'est ce qui m'obsédait depuis toujours, ce qui m'obsède dans cette figure du privé américain. Alors là, on cite Sam Spade, mais on est passé à autre chose. Hein. On est passé à une autre figure. On est passé à cette figure, effectivement, qui est une figure d'enquêteur sur l'Amérique. Alors, comme dirait Thomas Pynchon, la question, elle est résolue très vite, hein, la question de l'Amérique. Toute enquête américaine est l'histoire d'un crime, c'est l'histoire d'un génocide, même plusieurs. C'est l'histoire de, comme dirait Nathaniel Hawthorne, le premier écrivain américain et le premier enquêteur sur l'Amérique. C'est l'histoire de la plus grande tache de sang que l'Amérique ait jamais portée, je cite Hawthorne. C'est l'histoire du diable. C'est l'histoire d'un crime et de la culpabilité qui va avec. Alors là, c'est pas vraiment l'histoire. En ce sens, on peut dire que c'est vraiment un film très Ashkenaz, on en parlait. C'est un film très talmudique au sens où à toute question, il répond par une autre question. Il n'y a jamais de réponse. La question, c'est de renvoyer cette question. Et ce n'est pas vraiment la culpabilité d'Arthur Penn. C'est pas la culpabilité de ce pays. On sent que ce n'est pas sa mémoire à lui qu'il raconte. Ce n'est pas cette tristesse-là, ce côté shady, honteux, hein, c'est des mots du film. Et donc, Kennedy, any Kennedy, n'importe quel Kennedy, et ça, je trouve que c'est magnifique la manière dont c'est dit, ça va être déplacé sur une autre question qui est la question de la mémoire traumatique des petites filles, qui est portée par un homme, un personnage masculin absolument sublime, qui est le seul personnage masculin pas dégueulasse du film, et qui va porter comme ça, qui porte la loi, en fait, hein, littéralement, puisque quand donc Melanie Griffith, dans le film, c'est une enfant abusée, donc on comprend qu'elle a été victime d'inceste, probablement de son père, de son beau-père, on le voit. Donc, ce que la société patriarcale nomme une allumeuse, hein, une gamine allumeuse, une gamine libérée, comme dit sa belle-mère, qui elle-même a été victime exactement, et sa mère aussi, hein, c'est l'histoire d'une transmission, parce qu'elle le dit à la fin, en traitant sa fille de pute, en même temps, elle raconte que on voit, comment dire, à la fois ces crimes-là et en même temps la question très complexe, hein, qui est celle de mon livre aussi, de la complicité qui peut être transmise de ce que moi j'appellerais, et ça a des résonances américaines, une forme de mentalité d'esclave, qui est celle des femmes, là je parle des femmes, c'est-à-dire la manière dont elles peuvent elles-mêmes reprendre ces crimes-là et les reperpétrer. Ça, c'est la mère de cette petite fille. Donc, effectivement, elle apparaît, elle est nue. C'est une scène à la Botticelli, hein, filmée comme ça, je pense. Hein. Elle est nue derrière du linge. Elle a 15 ans hein, quand le film est tourné. Donc, elle est vraiment toute petite. Et elle a ce qu'elle ne cessera de garder dans toute sa carrière et qui est sidérant, cette voix d'enfant, de petite fille, qui est très différente de la voix de Tippi Hedren, sa mère, qui, elle, au contraire, a une voix extrêmement grave. Donc, elle est cet enfant sans innocence, enfin, qui n'a jamais eu aucune innocence, dans un pays et dans une famille hein, où il n'y a pas de loi qui s'exerce, hein, puisque donc il y a ce dialogue aussi magnifique où le beau-père fait semblant de demander « mais est-ce qu'il y a une loi ?» et Gene Hackman lui dit « mais oui, il y en a, there is a law, simplement vous l'avez violée, cette loi. » Et donc je trouve que ce héros masculin, enfin ce héros, c'est pas un héros, c'est le terme est un peu con, mais ce personnage masculin, absolument, je le trouve magnifique parce qu'on voit bien qu'il enquête, mais peut-être tu veux rebondir déjà et
Vas-y.
Donc, il n'y a que des femmes victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui des féminicides. Hein. C'est ça, c'est exactement ce que le film raconte. C'est pas un mot. C'est pas un mot qui est formulé à l'époque. À l'époque, on dit une vamp, on dit une allumeuse, on dit une pute. Là, concrètement, ce sont des femmes qui sont assassinées. Donc, dans le premier film où apparaît Mélanie Griffith, il y a des femmes nues et des femmes mortes, en fait. Il n'y a que ça. Et il y a un homme qui se débat avec ça et qui ne supporte pas lui et qui est le seul. Hein. Et c'est en ça que le film est vraiment magnifique parce qu'il est porté par le regard de cet homme-là qui enquête et qui n'aura pas de tranquillité lui-même hein, tant qu'il ne sera pas allé au bout de... Alors de quoi ? Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas vraiment d'enquête puisque dès le début, on sait exactement ce qui s'est passé. On comprend dès qu'on voit la mère ce qui s'est passé, la mère de la petite fille.
L'enquête.
Voilà, celle qui déclenche l'enquête, qui la déclenche, on le comprend, mais voilà, et on comprend tout de suite puisqu'on voit que la mère partage, enfin, qu'il n'y a pas d'interdit de l'inceste en fait. C'est un monde, une structure familiale sans interdit de l'inceste. Et où les femmes donc sont victimes et reproduisent ça en mettant leur propre fille là-dedans. Et donc lui, il est là pour regarder ça. Hein, et il est là pas pour découvrir ce qui serait une vérité à la Sam Spade, encore que la figure de Sam Spade, déjà, c'est quelqu'un, on est déjà pris dans un type d'enquête où on ne sait pas du tout, enfin, où c'est un labyrinthe en fait. Hein, c'est un labyrinthe tragique où l'enquêteur lui-même est perdu en chemin, et perdu sans doute aussi de son propre désir et de son propre regard. Là, il n'est pas perdu ni dans son désir, ni dans son regard. C'est quelqu'un de très droit, en fait. C'est un personnage très droit et qui est hanté par le fait de regarder son père de l'autre côté de la rue. Ça me fait penser d'ailleurs à un roman que j'avais traduit extraordinaire de Nathaniel Hawthorne, Wakefield, hein, qui est l'histoire d'un... Wakefield, c'est celui qui a écrit Le voile noir du pasteur. Hein, donc c'est celui qui a écrit le plus grand texte sur le crime de l'Amérique. C'est l'histoire d'un pasteur dans une petite ville. Donc ça se passe au moment des pionniers, des premiers... au moment du diable pour Hawthorne, au moment vraiment du protestantisme le plus diabolique qui fonde l'Amérique sur un premier meurtre. Enfin, il y en aura eu beaucoup. Et donc c'est l'histoire d'un pasteur qui a un matin dans une petite ville puritaine, met un voile sur sa tête, comme une femme voilée. Il met un voile noir. Et il n'y aura jamais d'explication, c'est-à-dire que personne ne saura dans ce village pourquoi il a mis ce voile noir. Tout le monde sera horriblement mal à l'aise, hein, renvoyé à son propre crime, et cet homme va mourir avec son voile noir et sera enterré. Et pendant l'hommage funéraire, il garde son voile noir. Donc c'est une nouvelle absolument... saisissante qui renvoie exactement, c'est un personnage un peu comme le Private Eye là, hein, c'est-à-dire que se voiler la face ou regarder d'une certaine manière, c'est la même chose. Et d'ailleurs, dans parmi les plus beaux textes de Hawthorne, il y a des idées qu'il notait de romans, et il y en a une qui est un homme regarde dans un miroir et il voit tous les crimes qui se sont passés remonter à la surface de ce miroir. Ça pourrait être le résumé de ce film, en quelque sorte. Alors, les femmes, enfin, les victimes ici, je disais, c'est une succession de femmes. Alors, c'est assez sidérant de voir que par ailleurs, mais 20 ans plus tard, Melanie Griffith va retrouver James Woods dans un film.
Donc James Woods, c'est celui qui joue le mécanicien.
C'est son meurtrier, en fait, celui qui trafique la voiture, dont on comprend que c'est un homme extrêmement violent. Ce ne sont que des hommes qui battent les femmes. Et la meilleure chose qu'une femme puisse espérer, d'où là, it's a fucking sad story, comme elle dit, la tristesse de l'histoire, c'est un homme qui n'a pas le vin violent. Donc un homme qui soit juste un peu qui frappe un peu moins et qui tue un peu moins, cette succession, cette lignée comme ça de femmes victimes de la violence d'un pays en fait, et d'une structure viriliste à laquelle le détective n'adhère pas. Et y a d'ailleurs en arrière-plan, je trouve, la relation amoureuse qu'il a avec sa femme, que je trouve absolument sublime. Ça m'a fait penser à un film, à un livre extraordinaire de Stanley Cavell qui s'appelle La protestation des larmes, et où il étudie justement du même point de vue la question. Donc Stanley Cavell a inventé la notion de comédie du remariage, c'est-à-dire dans un autre livre, c'est un diptyque en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un mariage, c'est la grande question politique en fait. C'est une question qui n'a cessé d'être mal interprétée, qui a été mal interprétée comme qui n'a pas été regardée en face en fait, sachant que au XVIIe siècle, le grand poète John Milton, donc auteur de, c'est drôle d'ailleurs, Paradis perdu, Paradise Lost. Ah, en 1644, il a envoyé une supplique au Parlement anglais pour critiquer violemment le mariage chrétien, je cite, et promouvoir le divorce. J'ai découvert ce texte grâce à Stanley Cavell, sur la base d'un argument qui est que le mariage chrétien, je cite, n'est pas une conversation. Ce n'est pas une conversation, dit Milton, parce que l'homme et la femme ne sont pas à égalité dans la conversation. Donc ça, c'est la grande question de Cavell. Et on a donc d'un côté cette idée de la comédie du remariage, où peut-être, y compris dans l'engueulade, il y aura la possibilité d'un lien amoureux entre un homme et une femme. C'est une question hétérosexuelle, c'est-à-dire c'est la question donc chrétienne, je veux dire. C'est la question qui fonde le mariage entre un homme et une femme, où c'est une structure inégalitaire et où le dialogue n'est pas possible puisque la femme est disqualifiée, disons, dans ce dialogue. Ça, c'est la norme, disons. Et puis, il y a l'exception. Il y a toujours des exceptions à la norme, tel qu'on voit le personnage là, masculin, qui, lui, lutte pour ne jamais résoudre dans la violence, y compris des questions qui auraient un nom à la con comme adultère, et dont on voit bien dans le film qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Je te laisse un peu la parole.
Enfin, non, c'était juste, je voulais reprendre sur le personnage masculin, ouais. Le personnage de Gene Hackman, parce qu'effectivement, c'est un personnage passionnant. Le film est, je dirais, centré autour de lui. Lui-même et tourne sur lui-même. Enfin, le plan final où le bateau, au lieu d'avancer, fait des ronds dans l'eau, dit beaucoup de choses. Mais entre autres, Arthur Penn disait, quand on lui demandait si le personnage était mort à la fin, il disait non, il n'est pas mort, mais quelque chose est mort en lui. Bon. Donc voilà une forme d'explication, mais c'est vrai que ce personnage masculin diffère des autres hommes qu'on peut voir dans le film. Il a une autre attitude, il a un autre regard, et en même temps, il est sans doute défini par quelque chose qui, comme tu l'as dit, l'obsède, de ne jamais être satisfait de sa propre enquête. C'est-à-dire qu'il y a toujours le sentiment que cette enquête n'est pas terminée. Il va jusqu'à son père, mais pas tout à fait. Ici, il élucide l'histoire, mais a-t-il vraiment compris ce qui s'est passé ? C'est un personnage insatisfait. Et peut-être, de ce point de vue-là, c'est ce qui exprime le titre, puisque le titre « Night Moves », donc, toi, tu sais mieux que moi, c'est la polysémie de la traduction possible, mais c'est à la fois le Bon, des mouvements dans la nuit, hein, littéralement. Mais night, si on l'entend phonétiquement, c'est le cavalier. Et le cavalier, c'est night move, ça serait le mouvement ou le déplacement du cavalier. Et évidemment, le personnage nous donne une leçon d'échec dans le film, puisqu'il joue lui-même aux échecs.
Littéralement, d'ailleurs.
Littéralement. Mmh. Et il raconte l'histoire d'une... Je ne sais pas comment on peut décrire ça, du cavalier, comment le cavalier aurait pu mettre échec et mat l'adversaire. Mais il dit, ce coup de 1922, il l'avait préparé, et au moment de conclure, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, donc il n'a pas gagné. C'est-à-dire qu'il manque toujours, un coup, il manque toujours le bon mouvement. Et c'est un personnage qui est tout le temps entre bon mouvement et faux mouvement. Il est tout le temps juste et faux. Et avec sa femme, il est un peu aussi... on sent dans une même recherche, dans une même inquiétude, dans un même rapport où il essaye de rétablir quelque chose. En fait, c'est quelqu'un qui... Arthur Penn l'a dit, le film est une enquête, mais c'est surtout l'enquête d'un homme sur lui-même, ses conditions de vie, son entourage. Et ce qui a le plus intéressé Arthur Penn dans le film, c'est l'enquête du détective sur lui-même.
Bah, c'est une éthique de la perte, en fait. Il a une éthique de la perte qui, effectivement, n'est pas l'éthique, qui n'est pas la norme. Hein. La norme masculine, virile, patriarcale, hein, c'est le gain. C'est le gain, c'est la prise de pouvoir pour gagner, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la violence qu'il faut pour gagner. Lui, il est dans une éthique de la perte que je trouve sublime, en fait. C'est précisément pour ça, et c'est là où tout ce qui se joue dans son rapport amoureux avec sa femme est magnifique. C'est-à-dire qu'il l'observe. Donc, tout à l'heure, je faisais allusion, il y a une nouvelle de Hawthorne, effectivement, où un homme, il dit à sa femme, je vais en voyage d'affaires, je rentre vendredi. Puis, en fait, il traverse la rue, il s'installe en face. Et pendant 10 ans, il va observer sa femme de l'autre côté. Bon, la nouvelle d'Hawthorne, c'est plutôt un truc un peu assez sadique par ailleurs, mais très beau, très mystérieux, il n'y aura pas d'explication. Là, il accepte la possibilité de la perdre, en fait. C'est-à-dire que quand il la voit avec cet homme, même avec deux autres hommes, parce que quand même, elle en embrasse deux, donc il n'est pas du tout dans l'idée de la reconquête, dans l'idée de la violence, ni contre le rival, ni contre sa femme. Mais donc, il n'est pas dans une logique de la possession, c'est-à-dire que sa femme, il n'est pas sa propriété, ce qui est, pour le coup, la base quand même du rapport du mariage traditionnel, qui implique, par exemple, juridiquement, que la notion de viol conjugal n'a été introduite dans le droit français, mais pas seulement français, que extrêmement récemment, il y a quelques années, puisqu'il y avait l'idée de la propriété d'une femme qui était la propriété, donc un rapport qui était vraiment juridiquement, politiquement, totalement inégalitaire. Et encore une fois, vous vous rendez compte qu'en 1644, John Milton déjà dénonce cette dimension chrétienne et qui vient effectivement du christianisme, hein, qui vient, et Stanley Cavell le rappelle très bien, de l'idée que la femme, elle doit toujours être créée, en fait. L'homme n'est pas créé, en fait. La femme est créée à partir de l'homme, dans la Bible. Donc, il y a l'idée de la création. Donc, si on peut créer la femme, on peut aussi la décréer, dit Cavell. C'est-à-dire, on peut la détruire, on peut la tuer. Hein. Il y a cette idée de propriété et en même temps d'anéantissement total, possible, de destruction. Cet homme-là, et c'est pour ça que je parle d'éthique de la perte, vraiment dans un sens, je trouve vraiment très beau. Ça me fait un peu penser à Serious Man, le film que j'adore, des frères Cohen. Voilà, je trouve que c'est un personnage très talmudique, moi, je trouve. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, il est dans une enquête sur sa propre mémoire, qu'il observe à distance. Hein. Et on voit, d'ailleurs, ce qu'il raconte de son père est absolument magnifique. C'est-à-dire cette idée qu'il l'a vu sans intervenir. Hein. Comme si, il y a quelque chose de profondément cinématographique hein, dans cette idée, mais qui a à voir avec le fait que toute image de cinéma est un trauma et toute image de cinéma est... Enfin, le cinéma, c'est l'art des amnésiques. Il est fait pour combler nos blancs, le blanc de notre mémoire, le blanc de nos souvenirs, même s'il n'y a pas de blanc, nous créer ou nous ajouter des souvenirs ou nous donner nos souvenirs manquants. Et donc, il y a cette idée comme ça du souvenir qui est un film et qu'il n'avait pas à parler à son père. Il avait à le regarder comme il regarderait un film. Et la scène magnifique où la clé... la clé, elle est dans un film, évidemment. Elle est dans cette image qu'il retrouve de ces étudiants qui ont filmé, pas le film officiel, mais le documentaire de jeunes gens qui, eux, ont vu la mort de cette, enfin, le meurtre, pardon, de cette jeune femme, de cette jeune fille, de cette toute jeune fille, on dirait vraiment une petite fille, hein, c'est inouï à quel point. Voilà. Donc ça, c'est très beau. Et il y a un autre truc très important qui m'échappe, mais vas-y, ça va me revenir.
Simplement, je voulais juste revenir sur un point et après, on vous donne la parole par rapport au film aussi. Je voulais revenir sur la question des Kennedy, parce que là aussi, ça définit et le personnage masculin et le film lui-même. C'est un film donc qui se tourne, je le disais, à la fin de l'année 73, qui va sortir en 75. C'est-à-dire qu'au moment où il se tourne en 73, l'Amérique évidemment est embourbée au Vietnam, et c'est le moment où éclate le scandale du Watergate. Tout ça, Arthur Penn n'en rate rien, littéralement. Mais surtout, il faut savoir qu'Arthur Penn, quand il cite les Kennedy, il sait de quoi il parle, parce qu'il a été, au début des années 60, conseiller technique de John Fitzgerald Kennedy au moment où Arthur Penn travaille à la télévision et il supervise en quelque sorte dans le clan Kennedy les débats télévisés entre Kennedy et Nixon. Donc il est très impliqué auprès de John Fitzgerald Kennedy et la mort de Kennedy sera pour lui un trauma, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il dira « nous sommes nostalgiques d'un monde qui n'a pas été ». Ils ont le sentiment, là, qu'on parlait de l'innocence et de la perte d'innocence, que vraiment quelque chose allait être possible ou serait possible et que le monde dans lequel on vit après n'est que le négatif de celui qui n'a pas eu lieu. Et puis Robert Kennedy en 68, donc le frère de John, qui est candidat à l'investiture du Parti démocrate, donc fait campagne, et il engage Arthur Penn. Et il l'engage comme conseiller image. Il se voit une fois ou deux, je ne sais plus, et toujours est-il que Kennedy, Robert, lui dit « Je vais en Californie et quand je reviens, on se reverra. » Et puis, il se fait abattre en Californie. Donc, deuxième trauma. Et il faut voir que, enfin, Arthur Penn, je dis très vite, a dit qu'il avait fait Little Big Man dans un état de tristesse absolue. Et à partir de Little Big Man en 70, à un moment où il rencontre un grand succès, ce film-là date de 75 et entre 70 et 75, il fait pour ainsi dire rien. C'est-à-dire, il ne fait pas de théâtre. Il tourne un épisode d'un film consacré aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Mais là, il est littéralement rattrapé par l'histoire, puisque aux Jeux Olympiques de Munich en 72, il y a le Septembre Noir, c'est-à-dire l'attentat contre les athlètes israéliens de la part d'un groupe palestinien. Bref, voilà un peu dans quel état d'esprit vit et agit et travaille Arthur Penn, et qui dira « l'Amérique était un fiasco et le Watergate est venu en quelque sorte boucler la boucle ». Et il fait le film dans cet état d'esprit-là. Alors bien sûr, ça serait beaucoup dire que le personnage de Gene Hackman l'incarne, mais en tout cas, il porte quelque chose de cette disparition de l'innocence, ce qu'on disait sur le fait que quelque chose ne prend plus ou s'enfonce ou coule. Et je pense que l'allusion au Kennedy dans le film est bien sûr un moment de dialogue inoubliable, enfin mémorable, mais c'est aussi pour lui, dans ce film, qu'il enterre ou qu'il dévoile sa grande tristesse. Arthur Penn, c'est à ce moment-là, au milieu des années 70, ce cinéaste-là qui se coltine cette histoire-là dont il a été évidemment très très proche. Voilà.
En même temps, je pense que la fiction est toujours en avance sur le réel et à commencer par ceux qui la font, c'est-à-dire quand un écrivain qui écrit un livre, son livre dit des choses de lui qu'il ignore et dont il prendra la mesure des années plus tard, et ça vaut aussi pour les cinéastes. Et ce que tu dis est très juste, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette mélancolie absolue du film et dans cette perte de l'innocence, au fond, une préscience de quelque chose qui n'est pas encore formulé, mais qui est la perte aussi de cette mythologie, de ces pères-là, parce que, je veux dire, c'était sacrément dégueulasse, le régime Kennedy, hein, pour résumer, et le clan Kennedy. Et on ne le sait pas encore, et on ne le sait pas encore vraiment.
Oui, Arthur Penn, il est dans le...
Bien sûr.
Il est comme il dit, il est dans la légende.
Enfin, il est dans la légende. Legend, mais est-ce que son film n'est pas déjà... Il n'y a pas, porte pas quelque chose d'en avance d'une... C'est un film de décomposition, hein, les cadavres se décomposent. Et c'est vrai que ce qui est très beau, c'est que je parlais des... Bon, moi, mon roman Trois femmes disparaissent, c'est comment dire, c'est la lignée tragique au sens précis de la tragédie grecque des mères et des filles. Là, il y a un contre-champ, et c'est pour ça aussi que c'est aussi beau, c'est le contre-champ des pères et des fils. Pas sur le mode de l'héroïsation, hein, qui est, ou du meurtre, enfin le mode, disons, shakespearien, du meurtre du fils par le père, ou l'inverse, ou les deux en même temps. Plus sur le mode de la mise à distance mélancolique du fils spectateur, hein, et qui ne sait pas quel film il va regarder, en fait, et qui cherche un témoin. En fait, c'est la question éthique du témoin. Hein, je disais, il y a une éthique de la perte, et puis il n'y a pas d'éthique sans une question, la question du témoin, c'est-à-dire à qui confier un récit. Bon, c'est une question très ancienne, pour le coup, biblique, peut-être moins chrétienne, mais enfin, qui remonte à loin. Mais en fait, quand on est deux, on est déjà plusieurs, en fait. On est plus que deux, si on est vraiment deux, pour revenir à cette question du mariage, mais encore une fois, que j'entends en un sens politique, parce que c'est quand John Milton écrit ce texte, c'est explicitement une critique de la relation du citoyen avec le roi, enfin avec la monarchie, je veux dire. Donc, le mariage, évidemment, est une figuration de toute forme de relation politique. Hein, et on ne peut pas dissocier l'intimité, ce qui se passe dans l'intimité d'un foyer, d'une maison, ce qui se passe entre un homme et une femme, ce qui se passe quand le mari bat sa femme et la tue, et puis ce qui se passe à grande échelle dans le pays, ce que font les dirigeants. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose là du film, comme, alors, dans Conversation secrète, c'est explicite déjà, dans Blowout, voilà, Blowout de Coppola, c'est, de Palma, c'est carrément, et puis pour le coup, l'innocence de Palma, c'est quand même un gamin qui était enfant, son père l'a obligé à assister aux... Il était chirurgien, son père a assisté aux opérations qu'il faisait, donc je veux dire, l'innocence, je crois qu'il ne l'a jamais connue. Son œil n'a jamais eu cette innocence-là. Donc là, il y a quelque chose, oui, qui se dit comme une décomposition qui est déjà là, même si lui est encore dans cette nostalgie et ce chagrin et ce deuil-là. En même temps, le film est en avant. C'est ça qui est très beau aussi.
Mais vraiment, je pense que le film est travaillé par l'idée de décomposition. Ça se passe en Floride, au large des îles, au large de la Floride. Bon, le visage du noyé qui pilotait l'avion.
La première, c'est une départ. Femme.
Il y a quelque chose là. On sent bien que tout est en train de pourrir lentement. Quoi.
Bonsoir. Alors, il y a deux observations dont je voulais vous faire part. D'abord, j'ai eu l'impression qu'après avoir vu le film, qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité. On ne sait pas quel jour on est, quand est-ce qu'une action, si une action, entre guillemets, suit une autre ou pas. Oui, forcément, mais enfin, quel est le temps qui se passe entre un plan et un autre? Moi, je me suis dit, non, je pourrais pas. On me poserait cette question, je ne pourrais pas y répondre. Alors, est-ce que c'est un constat, voilà, une remarque. Et puis, effectivement, il y a dans le film un aspect très décomposé, parce que je trouve que les thèmes, qui sont nombreux, j'ai pas vu la relation entre les différents thèmes. Je comprends pas pourquoi la jeune fille, donc Melanie Griffith, a dû être tuée, par le garçon violent que joue James Woods. Je comprends pas les relations des gens, des protagonistes, les uns avec les autres. Pourquoi ils réagissent de cette façon, en vertu de quoi? Je trouve ce film très diffluent. Diffluent, c'est un mot qu'on utilise en psychiatrie pour dire fou.
Diffluent.
Ouais. Je termine rapidement. Je m'y suis vraiment beaucoup ennuyée. Et là où je me suis réveillée, c'est à la fin. Que j'ai trouvé vraiment cohérente. En fait, je trouve ce film incohérent. Et la fin, oui, il y a un sens à l'attaque brusque, soudaine. On voit émerger des trésors qui viennent du Yucatan, peut-être.
Voilà. Parce, bon. Que vous voyez, parce que vous êtes nostalgique du cinéma d'action. Mais
ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Nostalgique de la cohérence. Ah, non, moi, je pense que la réponse
non,
est...
Qu'il y ait une certaine cohérence, pour moi, je vais vous choquer, excusez-moi, mais c'est un film des années 70, c'est ça ?
Oui, 75.
75. Bon, je vais choquer beaucoup de gens ici, et dont vous, certainement.
Choquez-nous.
Pardon.
On attend que ça.
À l'avance. Non, mais je le dis pas d'une façon sadique, mais je trouve que tout le cinéma à partir des années 60, ouais, peut-être un petit peu 65, est dégénéré. Pour moi, c'est du cinéma dégénéré.
Ok. Voilà,
donc on va.
You have a point. You have a point. Alors, moi, si vous voulez, je pense que la réponse à votre... les mots me viennent en anglais, c'est ridicule. Comment on dit quand on est déconcerté ? Il n'y a pas de mot... elle est dans votre première remarque, c'est-à-dire que c'est un film qui est mis en scène et qui est inscrit dans la temporalité du trauma. La temporalité du trauma, ce n'est pas une temporalité cohérente. Elle surgit par flash. Elle est au présent, mais aussi bien, il n'y a pas de... Et je pensais à ça parce que j'ai un ami qui est très, très vieux et qui, quand il parle de... Soudain, il se met à parler de la guerre, enfin, de sa famille qui était cachée, de ça. C'est au présent. J'ai tel âge. Et ça m'a... À force de l'entendre, je me suis dit, voilà, ça, c'est la temporalité du trauma où, en fait, ça surgit au présent. Et le présent, on ne sort jamais de ce présent-là. Le film est entièrement Night Moves. C'est aussi le mouvement de l'inconscient. C'est un film qui est c'est un film nocturne. C'est un film... Moi, je le trouve magnifique précisément parce qu'il est... le cinéma, c'est que du trauma, à la différence de la littérature. La littérature... c'est pas ça. C'est-à-dire, il n'y a pas cette effraction, voyeur, qui fait que toute image de cinéma, c'est un trauma. Et elle devient un trauma parce qu'on la regarde, même si ce n'est pas du tout une image traumatisante. Hein. C'est ça qui fait la dimension à la fois sexuelle et irrésistible et effrayante du cinéma. Hein. C'est ce qui fait qu'on aime... c'est ce qui fait qu'on est... Enfin, je dis « on », je te mets dans le même panier que moi, mais que ceux qui adorent, les cinéphiles, on se rapporte là, ou les gens qui... On va au cinéma pour ça. Donc, ça se passe dans la nuit. Ça se passe dans la nuit de la tête de chacun, et on est dans la nuit de la tête de cet homme. Et il n'y a pas... Il est le petit garçon qui n'a pas pu traverser la rue pour parler à son père, et il l'est au présent. Hein, au point que sa femme, qui est son témoin, et ils sont chacun, enfin, elle essaye d'être le témoin de cet homme, parce qu'il faut un témoin, on ne peut pas survivre tout seul, surtout quand on a vécu un trauma, enfin, ce qui est le cas de tous les êtres humains en réalité, à commencer par celui de la naissance. Donc, je trouve extraordinaire que cette femme couche avec ce mec, je pense que n'importe qui, je pense que, comment dirais-je, moi, je serais pas t'accoucher avec n'importe qui habite cette maison, personnellement, y compris le chat. C'est inouï, la beach house, c'est d'une beauté. C'est extraordinaire. La puissance visuelle de la mer dehors, la nuit, il y a quelque chose, c'est un écran bleu. Hein, cette mer, MER, je ne parlerai pas de ma mère aujourd'hui, parce que je parle beaucoup de ma mère. Cette mer, MER, avec cet écran bleu qui est aussi un autre écran de projection. Ça m'a fait beaucoup penser à Coppola, moi. Hein, à quelque chose de Coppola... qui a perdu son fils, tué quasiment de cette manière, enfin, dans la mer, dans un bateau à moteur, l'écran du cinéma. Voilà, donc c'est un film dans lequel chacun peut projeter ses propres traumas, où l'Amérique peut projeter les siens, où Arthur Penn incontestablement projette, comme tu l'as extrêmement bien dit, ce trauma qu'il a, et sans doute d'autres derrière, où cet homme nous plonge en effet en toute incohérence, parce que s'il fallait commencer à chercher de la cohérence dans l'inconscient, ce serait ce serait mais pas. Et dans la mémoire de chacun. Ce que vous disiez ensuite. Voilà. Et alors, l'ennui, pour moi, je suis une grande militante. J'ai parlé à la radio à propos de Jane Dillman. Je milite beaucoup pour l'idée que l'ennui n'est pas un argument. Je pense que toutes les belles œuvres, d'une manière ou d'une autre, ont leur part d'ennui. Et que l'ennui est connecté à la liberté humaine, en fait. C'est-à-dire à l'expérience de l'angoisse qui est liée à celle de la liberté. Et que c'est un film angoissant aussi, enfin pas seulement, mais qui a sa part d'angoisse. En tout cas, on est pris dans l'angoisse de cet homme. Et voilà. Alors après, je vais parler à l'américaine en disant je ne suis pas en train de nier votre ressenti, comme on parle dans les débats aux États-Unis. Mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, moi je l'ai ressenti de cette manière-là, en étant dans la nuit, en entrant dans la nuit et dans l'océan, dans cet espace liquide qui est celui de la nuit et qui est celui de toutes ces mers qu'on voit, la piscine, l'océan à Los Angeles, l'océan en Floride, plein de requins, donc de dangers, mais qui sont, comme dirait Jacques Tourneur, les tigres que chacun a sous son lit en même temps. C'est un film qui est pris dans le cauchemar de cette petite fille aussi. Hein. La scène de cauchemar est extraordinaire. Hein. Et cette humanité de cet homme qui tapote le dos de cette petite fille, cet homme qui n'aura pas de désir dégueulasse, de désir hors la loi, au sens de la loi de l'interdit de l'inceste, pour cet enfant qui est vraiment à ce moment-là avec ses grosses joues et sa voix de petite fille, on dirait qu'elle a 7-8 ans. Hein.
D'ailleurs, elle lui dit, il paraît que quand vous me tapotez comme ça dans le dos, ça rappelle le battement du cœur de la
c'est
mère.
Sublime, hein.
L'enfant est dans le ventre.
Voilà. Ça, et donc, il est à ce moment-là, il est sa mère, hein, sa bonne mère qu'elle n'a pas eue, parce que, bon, à l'évidence, la mère n'est pas géniale. C'est le moins qu'on puisse dire. Les pères, n'en parlons pas. Lui-même, c'est l'éthique de la perte. Il est dans le manque de son propre père. Mais il va pouvoir, alors que lui-même a manqué d'un père, être un père pour cette gamine. Donc ça veut dire...
Il est consolant.
C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme en même temps. Il y a un déterminisme dans la tragédie. Et c'est une histoire tragique qu'on regarde. Mais en même temps, lui, il est celui qui permet d'échapper à ce déterminisme-là. Il est celui qui met quelque chose d'humain dans un pays qui ne l'est pas. L'Amérique n'est pas un pays, enfin, pourtant aucune nation le soit. Et ça que je trouve extrêmement beau. Et en effet, ce n'est pas, comment dire, c'est un film inattendu. À chaque moment, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne peut pas. Il n'y a pas de récit au sens du scénario. Ça bifurque. Pourquoi la gamine meurt? Ben parce que pour vous répondre, pourquoi elles meurent? Parce que les femmes meurent. Pourquoi elles meurent? Parce qu'elles sont assassinées. Il y en a plein par jour au moment où on parle. Donc voilà, c'est une réponse. Elle pourrait paraître abstraite, elle ne l'est pas. On voit le sang des femmes là. Non, c'est pas une généralité. C'est très concret pour chaque femme pour qui ça se produit. C'est pas.
En tout cas, sur juste d'un
mot. La mort n'est jamais une généralité, comme dirait Jacques Rivette. Justement, si on fait de la mort une généralité, c'est pas, il n'y a pas d'éthique de la mise en scène. C'est un film très éthique.
En tout cas, juste d'un
c'est
mot.
C'est mon sur, regard qui le.
Juste d'un mot sur le sentiment que vous avez d'une incohérence temporelle du film. Je pense que ça, vraiment, c'est à la fois une marque de l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cinéma moderne, pour le dire très vite, et que cette incohérence-là dont vous parlez, c'est-à-dire ce relâchement entre les causes et les effets, les lieux, tel lieu et tel autre, ça vient aussi de la perte d'innocence. Le temps de l'innocence supposée, c'est le temps d'un monde simple, d'un monde qui raccorde, d'un monde qu'on peut comprendre.
Sachant que, l'innocence américaine, c'est le génocide des Indiens. Hein. Il n'y a jamais eu d'innocence.
Bien sûr, mais en tout cas, on a parlé tout à l'heure d'une innocence supposée.
Innocence
supposée de l'avant mort de Kennedy. Ça, beaucoup ont dit qu'ils avaient vécu ce moment comme la fin de l'innocence. Voilà.
Mais il n'y a pas de... Heureusement qu'on construit. Sinon, c'est le récit. C'est le récit, oui. Les films nous regardent autant que nous les regardons. Les livres nous lisent autant que nous les lisons.
Je vais parler rapide. Ce sera un peu moins... il y a toute une tendance dans le film noir classique et le récit de réajustement. Donc c'est le récit, après la Seconde Guerre mondiale, du vétéran. par exemple Dahlia Bleu, écrit par Chandler en 46. Et donc voilà, c'est des récits où le héros masculin fait face à la perte de ses attributs. Donc dans le Dahlia Bleu, justement, c'est un soldat qui rentre et qui découvre que sa femme l'a trompé. Et elle l'a trompé. En plus, son enfant, il découvre que son enfant était tué par elle, etc. Et en fait, dans ces années 70, il y a un peu une réactualisation de cela. Et moi, j'interprète un peu le personnage comme un vétéran. Parce qu'en plus, vous avez dit, vous l'avez rappelé, c'est bien, parce que c'est au début 73, il y a eu le retrait des troupes américaines du Vietnam. Et le film sort en 75, où c'est vraiment la fin de la guerre du Vietnam. Et donc, du coup, moi, en plus, j'y pense aussi à ce film qui est Le Retour de LHB, qui est aussi un film sur le retour de quelqu'un qui découvre que sa femme l'a trompé. Et avec un homme infirme, qui est aussi le cas ici, l'amant de sa femme est un homme infirme. Et je trouve que le film aussi est peuplé d'individus infirmes. On a aussi celui qui a le plâtre. À la fin, le personnage aussi devient infirme parce qu'il est tiré dans la jambe. Et voilà, donc moi je pense que c'est vraiment un personnage qui incarne vraiment le vétéran de retour, en tout cas pour moi. En tout cas, après, c'est une interprétation, mais voilà. Et il y a eu ça aussi,
mais ce que vous dites est très juste. Moi, j'ai tendance, je suis d'accord à ce que vous dites, et vous avez raison de parler de la guerre du Vietnam aussi. Après, je pense que l'infirmité, c'est la condition humaine, en réalité. Enfin, je veux dire, moi, je trouve qu'il ne faut jamais s'arrêter au contexte historico-politique, qui, évidemment, est très fort là, mais qui est qu'ils sont tous... je suis obsédée par... je vais parler de Moïse, hein, j'adore Moïse. Enfin, en ce moment, je suis plutôt obsédée par sa femme. J'écris un livre sur Moïse. Moïse était bègue. Il avait des cailloux dans la bouche. Donc, l'infirmité, c'est celui qui, à chaque fois que Dieu lui donnait un ordre, il était pris de panique. Je veux dire, il n'y arrivait pas à les accomplir. C'était quand même l'angoisse totale. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de la condition humaine que nous renvoie ce personnage et qui, comme vous le dites, aussi bien déjà la figure du vétéran. Alors, je pense que ce qui est très beau dans le film, par ailleurs, c'est qu'il évite complètement le plot de l'adultère, qui est quand même un truc où... Moi, je trouve que monsieur trompe madame ou madame trompe monsieur, etc. Enfin, ça n'a aucun intérêt, en fait. En gros, pour résumer. Toute histoire peut avoir un intérêt, je veux dire, mais telle qu'elle a pu être traitée d'une manière comme un drama qui finit en bagarre, en catfight entre les nanas ou entre les mecs, en violence, etc. C'est quand même... On a un peu fait le tour de la question, disons. Là, c'est absolument pas ça. Il déjoue
un peu le stéréotype de l'affrontement homme-femme.
Complètement. Encore une fois, il s'agit de se trouver des témoins. C'est-à-dire que c'est un homme qui est, au début du film, ne parle pas. Il ne parle pas. Il n'est même pas bègue. Hein. Il ne parle pas. Et donc, on comprend que sa femme va parler. Alors, elle pourrait aller, parler à un psy, mais de son mari. Mais elle prend un amant pour parler de son mari. C'est sublime, cette idée. Et c'est pas du tout, c'est pas ridicule dans le film. C'est totalement touchant. Je trouve qu'il y a une humanité dans le film. Et moi, pour en revenir à la figure de l'enquêteur. Alors effectivement, le vétéran, c'est beau, c'est Ulysse, hein, le vétéran. Enfin, c'est celui qui revient. Voilà. Là, c'est un Ulysse. C'est un Ulysse qui aura une vraie conversation avec Pénélope, disons, et avec Télémaque. Télémaque n'est pas un personnage très sympathique d'ailleurs dans l'Iliade, mais le fils de Pénélope et d'Ulysse. Donc le personnage de l'enquêteur, c'est quelqu'un, je disais Private Eye, c'est quelqu'un qui regarde et qui écoute. C'est une figure d'écrivain, en fait. Moi, dans mon livre « Trois femmes disparaissent », la narratrice s'identifie à Colombo. Donc, moi, j'ai revu tous les Colombo, qui est c'est sublime. Colombo, c'est une des figures extraordinaires d'enquêteur. Et on voit comment cet homme, qui, par ailleurs, Moïse me parle dans mon oreille gauche, et borgne. En fait, c'était donc le comédien qui, à l'âge de 5 ans, avait eu une tumeur à l'œil et donc qui avait un œil en moins. Et dans la mythologie grecque, le cyclope, il est né dans la cavité du cœur humain, qui est celle de la colère, en fait. Et c'est vrai que Columbo et tous les enquêteurs ont une colère. Alors, c'est la colère contre les puissants, c'est la colère contre les riches, c'est celle de Columbo, hein, qui est toujours dans ses énormes maisons. Ses enquêtes se passent à Beverly Hills. Là aussi, on est à Beverly Hills. C'est la colère contre tous ces meurtres, enfin, tous ces criminels impunis. Et puis, qu'est-ce que je voulais... Je voulais dire autre chose. Oui, si on prend une autre figure d'enquêteur, pour le coup européenne extraordinaire, qui est celle du commissaire Maigret, on voit, il y a dans un des plus beaux romans de Maigret qui s'appelle L'homme sans tête. L'homme sans tête. Pardon ? Non, La femme sans tête, c'est autre chose. C'est L'homme coupé en morceaux, un truc comme ça. Bref, c'est un homme qui a été coupé en morceaux dont les morceaux ont été jetés, mais il manque sa tête, dans le canal au KG Map. Et dès le début du roman, Maigret rentre dans un bar. Il est 8h du matin, donc il va boire un verre de blanc, comme d'habitude. Et tout de suite, on sait qu'il est coupable. C'est la patronne du bar. C'est elle qui a tué cet homme. Il le comprend tout de suite, elle le comprend tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ensuite, Simenon fait ce roman extraordinaire, comme à peu près tous les romans de Simenon ? Parce qu'à la fin du livre, il y a cette phrase que je citais dans mon livre précédent qui m'avait complètement bouleversée, parce que ça dit exactement ce que c'est qu'un enquêteur. Et donc, ça dit pourquoi un enquêteur, c'est la même chose qu'un écrivain. Il dit que son enquête s'arrête, Maigret, quand il a vu la petite fille en cette femme. Donc, cette femme adulte, qui est donc une criminelle, qui l'arrête à la fin. L'enquête s'arrête là. C'est-à-dire, la question n'est pas le mobile. La question, qui sont des questions vraiment trop simples, en fait. Pourquoi il a tué ? Est-ce qu'on saura jamais pourquoi quelqu'un a tué ? En fait, non. Donc, évidemment, après, devant un tribunal, la question se pose différemment. Mais pour l'enquêteur, on voit bien que ce sur quoi il enquête, c'est sur la condition humaine et qu'il n'y a pas de réponse. Encore une fois, c'est pour ça que je disais, la seule réponse qu'on peut apporter, c'est à une question, c'est par une autre question. C'est ça, c'est la seule... Pour le coup, là, il y a une éthique là-dedans. Il y a une éthique qui est l'idée que... C'est quoi l'éthique en question ? C'est que la vérité ne se trouve pas tout seul. Elle se trouve au moins à deux. Elle se trouve dans un dialogue.
Et ça, vraiment, le fait que la vérité est insaisissable, que ce soit Gene Hackman ou que ce soit Arthur Penn, c'est vraiment l'objet du film. C'est-à-dire que le monde est devenu complexe, si bien que même quand on élucide l'intrigue, il reste quelque chose qui laisse insatisfait par rapport à la possibilité de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est pour ça aussi que le rapport temporel est faussé, c'est qu'on est dans un monde qui n'est plus explicable ou qui n'est plus compréhensible. Et ce monde qui n'est plus compréhensible, c'est vraiment le monde que cherche à décrire Arthur Penn.
Absolument. Sachant qu'un monde compréhensible, explicable, cohérent, c'est un monde qui obéit à la rationalité capitaliste, mais qui elle-même...
Qui obéit aussi au raccord classique du cinéma.
Voilà.
C'est-à-dire, on va forcer le raccord pour que ça raccorde. Et que, de toute évidence, là, on sache exactement où on en est, comment ça progresse et quelle heure il est du jour. Le cinéma moderne, c'est la dissolution. C'est la capacité à défaire ce qui est, dans le cinéma classique, organisé pour que ça fonctionne.
Voilà, et vous citiez, on pourrait raccorder ça et finir de répondre à votre question sur les vétérans, vous marquez effectivement la césure importante de la Seconde... Enfin, la césure cruciale de la Seconde Guerre mondiale, mais d'un point de vue éthique, tout commence là. C'est-à-dire que le premier cinéaste moderne, c'est Roberto Rossellini. Pourquoi il est moderne ? Parce qu'il réinvente le cinéma à partir du moment où le cinéma est impossible. Pourquoi il est impossible ? Parce que le nazisme, non seulement a exterminé au moins 6 millions d'êtres humains, mais avec, il a exterminé ce qui faisait la possibilité de la condition humaine. En réalité, c'est ça qui a été exterminé, qui est aussi grave. Donc, à partir de là, la question du cinéma, elle, dans sa possibilité même, se pose. Elle ne peut plus être la même. C'est pour ça que Rossellini dit on ne peut plus filmer dans les studios et surtout, on doit rechercher la vérité à partir de la conscience d'un être humain. Et donc, il fait Voyage en Italie, par exemple. Et dans Voyage en Italie, on est au premier plan. C'est la conscience d'une femme, pour le coup, en l'occurrence. On est avec Ingrid Bergman dès le premier plan explicitement, et de la même manière, il n'y a pas vraiment de chronologie, il s'agit de sauver un mariage, c'est-à-dire en fait il s'agit d'enquêter sur un mariage. Et il s'agit de comprendre, pour citer l'héroïne d'une maison de poupée d'Ibsen, qu'est-ce que c'est un vrai mariage ? Et si ce que je vis, est-ce que ça existe, un vrai mariage ? Particulièrement du point de vue d'une femme. Donc, à partir de là, comme tu le dis très justement, il n'y a plus de... Effectivement, il y a...
Pour le dire autrement, oui. Toi, tu dis Rossellini, mais le film le dit aussi. C'est-à-dire, à un moment, il y a cette blague sur Éric Rohmer.
Oui.
Bon, alors qui est traduite impossiblement, mais grosso modo, ce que Gene Hackman dit, c'est il dit « Oui, j'ai vu une fois dans ma vie un film d'Éric Rohmer, j'ai l'impression que de regarder un film comme si je regardais de la peinture séchée. » Bon, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient interminable, ça devient lent, quelque chose du temps cinématographique classique. Ben là, c'est comme de la peinture qui sèche et qu'on va regarder sécher. Et en même temps, j'ai toujours pensé que c'était très très drôle, mais quand aussi le film dit quelque chose de lui-même à ce moment-là. Il dit quelque chose de sa temporalité, c'est-à-dire que le film lui-même a intégré ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire qui est passé par le cinéma européen. La Nouvelle Vague, Rohmer, ils viennent de Rossellini. Donc il y a là une autre histoire du temps et du temps cinématographique qui s'écrit effectivement à partir de la Seconde Guerre mondiale et qui finit par toucher jusqu'au cinéma hollywoodien. Et oui, ça, c'est le cinéma américain des années 70.
Et le film, c'est vraiment pour le spectateur regarder du sang séché. C'est ce qu'on regarde pendant 100 minutes. Hein.
Monsieur.
Un mot sur l'interprétation de Gene Hackman, qui, je trouve qu'il livre une composition superbe. Tantôt, le jeu est rentré. Il y a des surgissements de violence qui ne sont pas sans rappeler le Popeye de French Connection, notamment à la fin. Et on a le sentiment qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Et par ailleurs, il véhicule un espèce de vague à l'âme, de désenchantement complet sur le devenir des individus, le monde qui l'entoure. Et son interprétation est très troublante. Et en plus de ça, il réussit à exprimer beaucoup de choses par le regard. Il y a ce regard qui porte, il est assez récurrent dans le film, et il est assez déconcertant, ce regard, parce qu'il porte plein de choses, il dit plein de choses, il est éloquent.
C'est très beau ce que vous dites quand vous dites qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Hein. C'est exactement ça, il est en avance, ce que je disais sur la fiction tout à l'heure. C'est la figure, c'est le témoin du cinéaste, pour le coup, dans le film. Il voit la mort, alors que la mort, ça ne se voit pas. Il la voit à l'avance, il voit plus la... Disons, on pourrait dire, plutôt que de dire il voit la vérité, par exemple, quand il passe les films, pas quand il passe le documentaire et qu'il comprend à ce moment-là que James Woods a trafiqué la voiture, c'est plus qu'il voit, effectivement, la mort, il est dans le pressentiment, comme tous ceux, probablement, comme tous les êtres humains qui ont des blancs dans leur histoire, il est doué pour combler les blancs des autres. Hein, c'est ça que font les écrivains aussi, pour le coup, c'est ce que disait Modiano, mais ça, je pourrais le reprendre à mon compte. Quand votre histoire est pleine de blancs, de trous, d'absences, vous remplissez les blancs de n'importe qui, pour de vrai, je veux dire. Pas en mettant n'importe quoi dans les blancs, comme dans une vraie partie d'échecs, je veux dire. Vous mettez les... Et c'est ce qu'il fait, oui. Avec effectivement, cette mélancolie, ce...
C'est vrai que l'interprétation de Gene Hackman est absolument éblouissante. Mais c'est une grande période pour lui. Hein. D'abord, il est découvert, révélé par Arthur Penn, justement, dans Bonnie and Clyde. Il tourne dans le début des années 70, donc les fameux French Connection. Mais enfin, il joue aussi dans L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, qui est passé aujourd'hui. Il joue dans Conversation secrète de Coppola, dont parlait Hélène. Donc c'est vraiment une grande, grande période pour lui. Et c'est vrai que c'est un acteur subtil, puissant. Voilà, les cinéastes qui ont travaillé avec lui l'ont souvent décrit comme ayant une très grande capacité de concentration, si bien que lorsque la scène se joue, les cinéastes disent il va tout de suite à l'essentiel. Et ça, c'est très beau. Ou Arthur Penn a raconté comment, avec Melanie Griffith, tout de suite il a travaillé à la mettre à l'aise et comment finalement ils se sont assez vite trouvés. Parce que ça va pas de soi non plus.
Vous parliez tout à l'heure de Blowout. Et est-ce que vous pensez que à la fin de Blowout, quand Travolta regarde les images de Nancy Allen sur la musique de Pino Donaggio, est-ce que il dialogue avec Night Moves pour la séance de la cabine, où je trouve il y a il est, Travolta est désabusé à la fin du film. Pour le moins, il a des raisons de l'être.
Oui, oui, oui.
Et là, c'est Ackman, pareil, cette espèce de présence à la limite de la résignation.
Les personnages de détectives privés dans les années 70, ils sont très très désabusés.
Ah, oui, ils sont très fatigués. Altman,
je veux dire, le privé d'Altman, l'enquêteur dans Chinatown, il y a effectivement.
Ils portent des millénaires sur leurs épaules.
Puis, sans aller jusqu'au millénaire, quand l'amant lui dit allez, vas-y, fais ton Sam Spade et vas-y, casse-moi la gueule. L'autre, ça l'arrête immédiatement. Ça l'arrête immédiatement parce que, d'une certaine manière, c'est plus possible de se comporter comme ça. Là, c'est plus possible d'être
dans
l'image action. Il n'est jamais dans le cliché. Et c'est plus possible. Donc, ils sont effectivement très désabusés, très fatigués, très là.
Après Blowout, c'est vrai que c'est quand même l'histoire d'un homme, d'un preneur de son, mais qui est un détective. Mais alors, ce n'est pas a private eye, c'est a private ear. Voilà, lui, c'est l'oreille. Et qui cherche un cri féminin. On peut dire que ça a commencé avec King Kong. Hein. King Kong, c'est aussi l'histoire d'un cinéaste. Enfin, je veux dire, l'actrice qui joue dans King Kong, ils en ont cherché une femme qui crie. Pourtant, les femmes, finalement, qui crient, je pense que les femmes sont assez douées historiquement pour... c'est pas sûr, c'est, vu comment on leur a fermé leur gueule. Mais enfin... De fait, la question du cri féminin, c'est-à-dire la question de la femme qui se fait buter, pour le dire clairement, c'est le sujet de Blowout, avec ce personnage extraordinaire de Nancy Allen. Et pour le coup, je pense à une scène qui est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma et qui, je trouve, très proche aussi de ce film, qui est la scène de leçon de maquillage. À un moment, Nancy Allen, avant d'être assassinée, donc c'est dans la gare, quand ils se rejoignent dans la gare, donc avec Travolta, il lui demande ce qu'elle fait, donc elle est maquilleuse, elle a sa trousse, et il lui dit « Ah bon, mais vous n'avez pas l'air très maquillée ?» Elle lui explique que « nude », une fausse apparence, on est encore sur la peau, on est encore sur une actrice qui va parler de sa peau, et elle lui donne une leçon de maquillage. Donc il y a quelque chose d'inouï dans l'inversion déjà du stéréotype viriliste à la con, où là elle le féminise complètement, et en même temps elle lui donne une leçon d'artifice, donc elle lui donne une leçon de cinéma, mais c'est elle qui la donne, cette leçon. La scène est absolument extraordinaire, elle est très longue, elle est remarquablement écrite, et voilà, et c'est un homme qui cherche à résoudre à comprendre quelque chose du cri féminin, mais qui est le cri d'une femme qui est tuée. Parce que bon, l'histoire, la vraie histoire, pour le coup, derrière Blowout, qui est l'histoire des nombreuses dégueulasseries de la famille Kennedy, du clan Kennedy, qui était quand même un clan abject, y compris à l'époque nazie. Hein. Enfin, je veux dire, ça a commencé très tôt, leur abjection. Après, effectivement, la mythologie contemporaine, il y a aussi cette question de la femme sacrifiée dans l'histoire. Donc c'est des films très proches, en fait, où vraiment il y a une vulnérabilité, où tout se craquelle, en fait. Hein, et c'est
parce que sans doute Blowout est un film, même s'il est du début des années 80, c'est un film qui appartient aux années 70. Allez-y,
79,
monsieur,
on
va le laisser finir.
Oui.
Voilà. C'est un film qui appartient de plein pied aux années 70.
Il est dans vraiment le...
Et une autre remarque, là, sur Arthur Penn, j'ai été frappé par... Je trouve que la scène finale est terrifiante. Je trouve que ça s'inscrit dans son cinéma, qui lui est propre, où il va fabriquer des images qui vont durablement marquer le spectateur. C'est-à-dire qu'on a, dans Bonnie and Clyde, à la fin, ce final qui est sidérant, de graphique, chorégraphié. On a, dans La Poursuite impitoyable, Brando qui est quasiment lynché, et l'image hante après le film. Et peut-être le plus brutal de tous ces films, qui est Miracle Worker, avec le face-à-face entre Anne Bancroft et cette jeune aveugle qui nous renvoie à l'exorciste. Enfin, moi, j'ai pensé à l'exorciste quand j'ai vu le film. Et donc, Arthur Penn, il fabrique des images qui marquent la rétine, définitivement. Et une preuve supplémentaire à la fin de ce film.
Non, mais c'est très vrai, c'est très vrai. Et la seule chose qui me vient en vous écoutant, c'est que par exemple, quand il devait choisir un sujet dans Vision of Eight, qui est le film sur les Jeux Olympiques de 72, il n'a pas choisi de filmer une épreuve sportive. Enfin, si, il a choisi le saut en hauteur, mais ça ne l'intéressait pas de rendre compte du saut en hauteur. Et ce qui l'a intéressé, c'est de filmer les moments d'apesanteur. Ce qui l'a intéressé, c'est de filmer l'apesanteur au ralenti. Donc, c'est-à-dire, effectivement, comme vous dites, de créer une sensation visuelle qui soit mémorable.
Qui est mémorable.
Voilà.
Et en ça, il me fait...
Pas du côté de l'exploit.
Non, pas du côté de l'exploit. Ou déconnecté de la compétition.
Il me fait penser à un autre cinéaste que je considère tout aussi cérébral que Penn, qui est John Boorman, qui est dans ses films, pareil, va laisser comme ça... Les pas de Lee Marvin dans le métro, le dueling banjo de Deliverance. On va se souvenir de ces images. De toute notre vie de spectateur, on s'en souviendra.
C'est imparable. Non, mais parce que ce sont des cinéastes, ce sont des grands cinéastes qui cherchent effectivement à créer une impression, une sensation forte, une image qui s'imprime dans la rétine.
L'image ultime.
L'image ultime, oui. Voilà, le final de Bonnie and Clyde, il est inoubliable. Clyde, il est inoubliable. Inoubliable. Tout à fait. Mais parce que c'est des cinéastes presque un peu formalistes, même si effectivement, là, c'est pas flagrant, mais quand même si. Oui.
Je voudrais d'abord vous remercier pour la présentation du film que vous faites, parce que je dois l'avouer, vous avez dit des choses qui me semblent extrêmement justes et passionnantes, et qui m'étaient un peu passées au-dessus de la tête quand je regardais le film. Et je voudrais du coup vous en proposer une lecture que je fais à la lumière de ce que vous avez dit, et également essayer de voir comment le petit fil de rationalité que vous avez également introduit peut expliquer le film. Alors, la façon dont je ressens maintenant le film, c'est qu'il y a une volonté de rupture systématique avec le cinéma qui précédait, que l'on pourrait qualifier cinéma de comédie, c'est-à-dire un cinéma où les acteurs ont des rôles qui sont parfaitement définis, où il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, ceux qui sortent de ce qu'on voudrait être la norme, et alors que justement dans son film, il s'efforce de créer des personnages qui ne savent plus qui ils sont et qui permet de dire qu'on passe dans la tragédie, c'est-à-dire qu'on est dans des personnages qui s'opposent, qui discutent, mais qui ont tous les deux raison. Ils ont tous raison d'une certaine façon, mais c'est justement cette opposition qui rend l'aspect tragique. On passe de la comédie où il y a le bon et le méchant à un film où il n'y a finalement plus personne qui a raison ou plus personne qui a tort. Et ça explique un peu aussi cette volonté de supprimer toute temporalité, mais également, de mon sens, toute cohérence dans la gestion de l'espace. Parce que je trouve qu'il se déplace entre la Floride et le centre des États-Unis.
Ça, c'est oui.
En particulier le dénommé Marv qu'on retrouve au fond d'un avion sans l'identifier. Le dénommé Marv, celui qui
s'appelle
Marv. On le retrouve au fond d'un avion en Floride. On ne sait pas trop comment il y est allé. En tout cas, certainement pas dans cet avion.
Et parce que c'est vrai que Los Angeles et la Floride, c'est pas à côté. Hein.
Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Non, et
d'ailleurs, de temps en temps, il se déplace en avion, mais aussi en voiture. Et là, pour arriver en voiture, là, c'est ça fait loin quand même. On l'imagine assez mal. Donc, je crois qu'il y a une volonté de montrer que le sujet n'est pas là. Et c'est délibéré. Et alors, justement, ce lien de causalité, vous l'avez aussi souligné, c'est le titre du film. Et à mon avis, le titre du film, il renvoie directement au jeu d'échecs. Et donc à cette fameuse partie. Et alors là, la question que j'ai, mais c'est qui est le joueur d'échecs? Parce que ça ne peut pas être lui. 1922, dit-il.
Non, parce que quand il dit 1922, il fait allusion à ce, alors je ne sais pas comment on appelle ça, ce moment, enfin cette combinaison aux échecs ou ce jeu de stratégie qui consistait à utiliser le cavalier pour mettre échec et mat l'adversaire en trois coups. Alors, et ce coup de 1922, il est répertorié dans l'histoire des échecs.
Je pense que c'est un coup joué par le champion cubain Capablanca. Je crois que c'est ça.
Je crois sur parole.
Ouais, enfin, il me semble effectivement que ce coup est fameux. Mais est-ce que c'est vraiment à ça qu'il fait allusion ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit un coup qui a été joué par son père. Il aurait... Non, je ne sais pas. Hein. Mais ce qui est certain, quand même, c'est qu'il y a une volonté d'introduire le jeu d'échecs, parce qu'elle n'est pas là par hasard, la partie. Or, le jeu d'échecs, c'est quand même un jeu fondamentalement rationnel. Et la preuve, les ordinateurs, maintenant, ils font merveille.
Pardon, c'est rationnel, mais enfin, aux échecs, pour ce que j'en sais, c'est rationnel avec des pions qui se déplacent de drôle de manière, que ce soit le fou ou le cavalier.
Surtout le cavalier.
Que ce soit le fou ou le cavalier. Voilà, et surtout le cavalier. Surtout le cavalier.
Il se déplace qu'en L.
Exactement. Il se déplace qu'en L.
Exactement. Et effectivement, c'est la trace d'un mouvement irrationnel qui permet malgré tout d'arriver à une fin. Et le drame de la partie qui est décrite, c'est que cette fin, il l'a oublié après la beauté du geste, la beauté de ce qu'il avait fait pour préparer son triomphe.
Sur les gentils méchants, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est... Effectivement, le film n'est pas du tout... Vous avez raison de enfin, on n'est pas dans une opposition manichéenne entre les gentils et les méchants. En revanche, il n'y a pas de dissolution pour moi de la question. C'est un film vraiment qui est, je trouve... qui a une éthique... qui le structure entièrement, c'est-à-dire c'est un film du côté des perdants en fait. Je parlais tout à l'heure de l'éthique de la perte. Je pense que s'il jouait aux échecs, sans doute il perdrait.
D'ailleurs, il lui... le dit en regardant le football américain. Il dit non, personne ne gagne. Voilà. Il y a simplement quelqu'un qui perd moins vite que l'autre.
Ah ben j'avais oublié. Tu vois, c'est ça. Donc lui, c'est un perdant. Donc il va être du côté des femmes qui sont les perdantes. Elles naissent perdantes et elles meurent perdantes. Voilà. Et en revanche, ceux qui, il y a des salopards dans le film. Il y a des ordures. Il y a des mecs qui violent les petites filles, qui violent leurs filles ou leurs belles filles. Le film là-dessus ne fait aucune concession. Tout le monde n'a pas raison. Tout ce monde-là est un monde dégueulasse. Il fait un boulot. Et alors, en revanche, son boulot, et c'est ça qui est très beau, évidemment, dans tous les personnages de détectives privés, quel que soit. Alors, Columbo, c'est différent parce qu'il est flic. Donc, c'est pas la même chose. Il est pas détective privé, c'est un policier. Mais si on prend toutes les figures de détectives privés, ce sont des. Précisément parce qu'ils sont pas dans le système de la loi, qui est. Je ne vais pas discuter sur est-ce que la police incarne la loi, ce n'est pas le sujet. De fait, le policier est censé être, même s'il ne le fait pas, du côté de la loi. Le détective privé, généralement, c'est quelqu'un qui a été viré de la police. C'est le marginal. C'est ça qui est sublime dans le personnage. Il est à côté, c'est un loser, c'est un perdant. Et il est dans la zone où, justement, les critères habituels qui s'appliquent à la police, en théorie, et notamment le règlement, ne s'applique plus. Donc, il est dans la zone grise. Lui est dans la zone grise, pour parler, disons, à la Renoir. C'est ni blanc ni noir, c'est gris. En revanche, dans le film, son regard à lui, pour revenir, et ça, c'est le génie de Gene Hackman, et on le voit dans son regard trace absolument la limite de la loi. Parce que la norme et la loi, c'est absolument pas la même chose. Il n'y a pas qu'en Amérique. Lui, il est du côté de la loi. Il n'est pas du côté de la norme. Et on voit bien comment son mariage n'est pas normal, selon la norme habituelle. Comment son boulot n'est pas normal. Et d'ailleurs, sa femme le lui reproche. Mais il est du côté de la loi. Et de ce point de vue-là, il évite la tragédie, je dirais plutôt.
Juste deux petites remarques pour finir. Je trouve qu'il y a les rapports entre le détective et sa femme sont remarquablement traités. Et vous n'avez pas cité, mais je pense que vous l'avez en tête, la phrase la plus belle de leur rapport, c'est quand elle lui dit, et ça fait référence encore à l'Odyssée, pour qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait un départ. Je trouve que c'est très beau, ça.
Oui. Elle lui dit, tu pourras pas... il faut que tu partes pour que tu puisses revenir.
Voilà. Et juste une petite remarque, j'ai toujours pas vu mes crocodiles. C'est une référence à la.
C'est dans le dialogue.
La semaine dernière.
Vous, le mot crocodile. Bon, il y a des.
Je pense qu'il n'y a pas d'alligator en Floride.
Mais ils en parlent.
Dans la
mer, il n'y en a pas. Dans la mer, il y en a dans les bayous. Mais je pense que.
C'est compliqué, là. Je pense que la géographie, c'est pas mon champ.
Je pense qu'il n'y en a pas au large. Il y en a dans les Everglades et dans les marais.
Bon, on dira que vous. Voilà. C'est bien, vous avez de la suite dans les idées. Donc, il faut revenir aux deux dernières séances.
Bon. On va s'arrêter là, effectivement.
Bonsoir, c'était juste pour savoir quel était le film de James Wood avec...
C'est Another Day in Paradise, donc c'est assez touchant, c'est assez intéressant.
C'est un film de Larry Clark.
C'est un film de Larry Clark,
très bien.
Qui est un remake assez explicite, qui cite Bonnie and Clyde, avec dans les deux, puisqu'ils s'appellent comme ça, les deux personnage avec donc le couple de James Woods et Melanie Griffith. C'est un film dont je parle beaucoup dans mon livre parce qu'il est, alors pour le coup, sur un nouveau chapitre de Melanie Griffith réduite à sa peau. Elle joue une junkie et il y a des scènes vraiment qui sont extrêmement crues et traumatiques et traumatisantes où elle se pique. Enfin, elle s'est tellement piquée qu'elle est obligée de chercher des veines un peu. Et ça fait partie de tous ces films, notamment aussi le film de Ferrara qu'elle a fait à la même époque où elle est une junkie à la peau trouée, à la peau sale, à la peau abîmée.
Dans ton roman, tu consacres un chapitre à Melanie Griffith telle qu'elle vit aujourd'hui sur Instagram, et donc effectivement comment elle fait, donc comment d'une certaine manière ce n'est plus le visage qui est en jeu, mais c'est effectivement sa peau, enfin elle joue sa peau.
C'est cancer de la peau en l'occurrence, puisqu'elle a beaucoup
joue
de
sa
cancer
peau
de la
peau. Et effectivement donc tu je veux dire que tu l'accompagnes jusque là, quoi.
Voilà, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sidérant d'ailleurs si on pense à tout ce que je raconte de cette tragédie qui se joue sans du tout juger pour le coup des relations mère-fille et tout, absolument pas, mais en regardant la tragédie abstraite qui se joue à travers Tippi Hedren et sa fille Melanie Griffith, je trouve que là il y a un arrière-plan dans le film. Je pense à la dernière scène où on voit cette mère qu'on pourrait, c'est une scène de tragédie.
Tu veux dire celle qui est au bord de la piste,
Arline, la mère de
au bord de la piste,
voilà.
Soul.
Et en fait, on voit bien là, et c'est ça qui est très beau dans le film, je trouve, le film est très beau, mais où il échappe aux pièges, à tous les pièges qu'il pourrait y avoir dans cette scène, c'est une scène de tragédie. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est une mauvaise mère, ce n'est pas le sujet. C'est une femme qui, elle-même, a été victime d'abus, qui a été traitée comme une pute, comme elle le dit, qui traite sa fille de pute, pas parce qu'elle est méchante, CF Médée n'est pas méchante avec ses enfants, c'est pas le sujet. On est vraiment là, on est dans la manière dont elle dit dont elle lui dit d'ailleurs, mes pleurs vous les verrez pas. C'est très beau. C'est un film qui, par ailleurs, quand même... Alors, je ne dirais pas qu'il laisse une chance à chaque personnage, parce que les personnages dégueulasses sont des personnages dégueulasses.
Ils accompagnent jusqu'au bout.
Voilà, exactement.
Merci Hélène Frappa.
Merci.
Merci Gina Ackman. Et merci Arthur Penn. Et à la semaine prochaine. Merci.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.